Alors vous connaissez certainement cette histoire de Youri Gagarine, le premier homme à aller dans l'espace, à qui on prête faussement, vraisemblablement, enfin faussement, cette phrase « J'étais dans le ciel, j'ai bien regardé partout et je n'ai pas vu Dieu ». Bon, il faut dire que l'imaginaire qui tourne autour de l'ascension ne nous aide pas beaucoup, et notamment dans l'imaginaire qui est alimenté, voyez, par... l'art pictural, normalement l'art pictural doit nous aider à entrer dans le mystère. Là, je trouve quand même que pour le mystère de l'ascension, ça ne nous aide pas beaucoup. Ça nous donne plutôt des fausses pistes. Jésus en lévitation au milieu des disciples qui se ferait un chemin entre les nuages et les angelots. En gros, c'est ça l'art pictural. Hein. C'est pas ça l'ascension. Jésus ne s'élève pas en un point éloigné, voire inaccessible du cosmos, il rejoint la gloire de son Père. Il rejoint sa place normale. Entre guillemets, ce qui est anormal ou ce qui est extraordinaire dans la vie de Jésus, c'est son incarnation, qu'il a assumée pleinement, librement. Sa place normale, c'est à la droite du Père, dans la gloire du Père. Et donc pour lui, c'est retour à la case normale. Et donc il fait à travers l'ascension que sa normalité à lui devienne notre normalité à nous, devienne la normalité de notre humanité. Pour revenir à cette petite histoire de Youri Gagarine, hein, qui a bien regardé partout et qui n'a pas vu Dieu, en fait, il y a vraiment quelque chose à regarder. Il y a vraiment à fixer quelque chose avec nos yeux. On le dit hein, dans la première lecture, les apôtres le regardaient. Et puis la nuée vint le soustraire à leurs yeux. Ils fixaient encore le ciel. Pourquoi regardez-vous encore vers le ciel? Vous l'avez vu s'en aller au ciel. En fait, on insiste sur les yeux, sur le regard, sur fixer les yeux, etc. Bon, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à regarder. On arrive au jour de l'ascension, 40 jours entre Pâques et l'ascension, où Jésus a multiplié les apparitions, il s'est fait voir de ses disciples, et il les a enseignés. Il y a même l'évangile de Luc qui dit « Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures ». Donc il y a quelque chose qui doit être ouvert en nous, il y a les yeux qui doivent être ouverts. 40 jours, 40 c'est une transformation, c'est une conversion. Pensez au carême c'est une conversion. Et donc il y a l'avant le carême et puis il y a l'après le carême, il doit avoir un changement dans notre vie. Quel est le changement du carême? Dieu change notre cœur de pierre en cœur de chair. Voilà la conversion du carême. Quelle est la conversion, le changement qui doit s'opérer pendant tout le temps pascal jusqu'à l'ascension? C'est que Dieu change non pas notre cœur, qui normalement est déjà changé, mais il change nos yeux. Il apprend non plus à le regarder avec nos yeux de chair, mais avec les yeux de la foi. Voilà ce qui se passe. C'est un peu ce que vit saint Thomas, hein. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Eh bien, délaisse un peu ce côté sensible, toi, disciple du Christ, je te fais voir un petit peu, je me montre à toi, très bien, mais délaisse ce côté sensible et entre dans la foi. Prends ces yeux de la foi. Sans les yeux de la foi, je pense qu'on aurait manqué une référence essentielle pour comprendre l'ascension. On aurait manqué l'histoire d'Élie et Élisée. Vous connaissez cette histoire. Élie et Élisée, Élie qui est le grand prophète en Israël et qui doit transmettre sa mission à Élisée. Ben, Élisée il dit, bon d'accord, tu me transmets une mission, mais moi j'ai besoin d'avoir les moyens de réaliser cette mission. Alors Élie va être emmené au ciel sur un char de feu, peu importe, et Élisée lui demande avant une double part de son esprit. Double part de son esprit. Entendez bien. Et Élie lui répond, « Si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Si tu me vois. Et donc, on comprend les disciples qui sont les yeux rivés au ciel. En disant, mais si on le voit, on recevra une double part de l'Esprit Saint. Et c'est exactement ce qu'a prévu Jésus. C'est ce qu'il leur a promis. Il leur dit de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre cette promesse du Père d'envoyer l'Esprit Saint. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Il le dit dans l'Évangile, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Qu'est-ce que c'est le pouvoir de Jésus ? C'est « Allez, vous, allez, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » En fait, le baptême dans l'Esprit Saint que vous allez recevoir, c'est le même baptême dans l'Esprit Saint que vous allez, dans lequel vous allez plonger toutes les nations. Ça, c'était la première chose à voir. Peut-être la deuxième chose à ne pas manquer, c'est que si Jésus disparaît dans la nuée au milieu des apôtres, qu'est-ce qui reste ? Il reste la nuée et les apôtres. La nuée, c'est l'Esprit Saint. Les apôtres, c'est l'Église. Donc il reste l'Esprit Saint et l'Église. Comme il disparaît lui-même, voyez, au moment de la fraction du pain, au milieu des disciples d'Emmaüs. C'est le même type de disparition. Hein. Et donc, pour les disciples d'Emmaüs, ils se disaient, mais en fait, on va non plus le voir avec nos yeux de chair, mais on va le reconnaître à travers les yeux de la foi, à la fraction du pain, c'est-à-dire dans l'Eucharistie, c'est-à-dire les sacrements de l'Église. En fait, on comprend par là que l'ascension, ce n'est pas le départ de Jésus. L'ascension, c'est la dernière apparition du ressuscité. La dernière apparition du ressuscité est l'entrée dans un nouveau mode de relation. En fait, tu veux Jésus, tu veux accueillir Jésus dans ta vie. Il t'indique l'Esprit Saint. Tu veux accueillir l'Esprit Saint dans ta vie. Il t'indique et l'Église et les sacrements de l'Église. On connaît cette petite phrase de Saint Irénée, hein. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Il a une autre phrase un peu bien pensée, bien pesée. Là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église. S'écarter de l'Église, c'est rejeter l'Esprit. Il y a ce texte, peut-être que vous le connaissez, mais du métropolite Ignace de Constantinople, qui disait « Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église est une simple organisation, l'autorité une domination, la mission une propagande, le culte une vague évocation et l'agir chrétien une morale d'esclave. » Bon. Dans l'Esprit Saint, qu'est-ce qui se passe ? Le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est une puissance de vie. L'Église signifie la communion avec la Trinité. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémoriale et anticipation. L'agir humain est déifié. Mais sans l'Esprit Saint, les martyrs refusent de donner leur vie. Les missionnaires vont pas aller à l'autre bout de la planète embrasser une culture qui est complètement différente de la leur. Ils refusent de prêcher l'Évangile sans l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, on s'ennuie à la messe, non ? On en a tous fait l'expérience, non ? Quand on a un peu fait endormir l'Esprit Saint dans notre vie, on s'ennuie à la messe. Moi, le premier. Ça fait des années que je m'ennuie plus à la messe. Vraiment. Sans l'Esprit Saint, mais les sacrements sont vides, sont creux. Notre foi, elle est vide, elle est creuse. Avec l'Esprit Saint, tout reprend vie. La ferveur reprend vie. Nous entrons avec l'Église dans cette grande neuvaine à l'Esprit Saint pour retrouver cette vigueur. C'est pas moi qui le dis, c'est la deuxième lecture. Hein, c'est l'énergie, c'est la puissance, c'est la vigueur du Christ ressuscité. Voilà l'Esprit Saint. Donc retrouvons cette vigueur à travers cette neuvaine. C'est très concret une neuvaine. C'est prier pendant 9 jours la même prière à l'Esprit Saint, mais avec un cœur ouvert. Et cette vigueur nous sera donnée.